Bonjour Ben.
Salut Ophélie.
Bienvenue dans le
Merci.
salon.
Le salon des confessions.
J'aime bien. Donc voilà, on était en train de se demander ce qu'on allait dire en fait. Parce que, soyons honnêtes, on n'est pas trop sûr. C'est moi qui t'ai invité et même moi, je suis pas sûre de ce qu'on va parler aujourd'hui.
Bah, on peut peut-être parler de l'élément déclencheur qui a fait que tu as pensé à me réinviter. C'est que tu es venu me voir en spectacle récemment,
2 jours de
deux
suite.
jours de suite. Tu as eu un week-end intense de
C'est
Benjamin.
vrai, j'ai dû m'en remettre là le week-end dernier.
Tu as vu
Nouveau spectacle.
le nouveau spectacle en work in progress
En anglais.
en anglais. Et après, tu as vu une soirée stand-up en français
Avec des autres
avec
humoristes
d'autres humoristes aussi, ouais,
de
à Bâle, tout
Zurich.
ça à Bâle. Ouais. Puis on avait un petit peu parlé après, je t'avais parlé de ce que j'essayais de te dire dans ce spectacle.
Ah
Et tu as dit, ah, ce serait pas mal d'en parler dans le podcast vu que je n'ai pas du tout compris ça quand j'ai vu le spectacle. Donc c'était un très bon feedback. Sans le vouloir, en fait, tu m'as détruit.
non.
Depuis, je suis rentré en
Tu fais
dépression.
plus de
J'ai arrêté le stand-up. Merci Ophélie.
Parlons-en
Je
maintenant.
suis juste invité de podcast maintenant. Ça va être ma façon d'exister.
Non, ok, alors c'était pas du tout mon intention.
Je rigole, mais.
C'était un feedback, c'était juste un
Non, mais en tant que
commentaire entre.
stand-upper, je suis obligé de dire des conneries en tant que
Ah ouais,
stand-upper. Je peux
ok.
pas être complètement
Ah mais
sérieux
moi je
tout le
suis
temps.
thérapeute, tu vois aussi, donc
Ah oui, mais alors, non, on va pas faire la psy parce que déjà, ça va faire chier tes
Je me dis,
auditeurs.
oh mon Dieu, j'ai dit un truc qu'il fallait pas.
Non, tu vois, un psy aurait dit, ah, c'est intéressant que tu aies réagi comme ça, Benjamin. Pourquoi? Et toujours remettre la faute sur le patient. C'est jamais de la faute du thérapeute.
Ah ben ça c'est sûr.
Bon.
Ok, donc voilà, ton nouveau spectacle en
Ouais.
anglais que tu m'as dit avant on va commencer en juin, mais que tu testes un peu déjà maintenant.
Ouais. Je teste, j'ai fait deux tests pour l'instant. Là, on est mi-avril et ça commence début juin. Et je pense qu'il faudrait que je fasse encore un ou deux tests.
Et ah, tu sais déjà où?
Non, je sais pas.
Ok. Basel.
Non, je ne peux pas parce que je suis programmé à Basel en novembre au Taburetli, ce qui est un grand honneur. Je suis très content. Mais par respect pour le Taburetli, il ne faut pas que je fasse trop de try-out à Bâle.
Ok,
Donc j'en ai fait un après quelques négociations.
avec
Donc,
eux?
ouais, donc je vais en
Ah
faire
ouais.
un deuxième.
Ah, je savais pas que ça se passait comme ça.
Bah, ça dépend des. Après, si tu veux, si jamais j'étais quelqu'un qui vend tous ses tickets en 2 jours, il n'y a pas de
Bah,
problème.
d'ici novembre,
Mais. Oui,
tu
d'ici
seras cette
novembre, j'ai le temps
personne.
de les vendre. Mais.
Non,
Ah, de devenir cette
tu seras.
personne!
Ouais.
Bah, écoute, j'espère, hein, c'est un peu le rêve de tout humoriste. Parce qu'en fait. Moi, je pense que la vraie seule façon de gagner sa vie en tant qu'humoriste, c'est de vendre des billets. C'est d'avoir assez de magnétisme pour le public de vendre assez de billets.
Quelle est la clé de ça, tu penses? De juste le
Et
faire assez
écoute, je ne sais
longtemps
pas, c'est un grand mystère. Je pense que les gens qui réussissent ça, je pense que c'est un mystère pour eux aussi. Bon, mais après, ouais, je pense que c'est du travail, mais c'est du travail. Pas que sur ton stand-up en fait, il faut travailler son marketing aussi. Chose que j'ai négligée pendant 7 ans. Donc, enfin que j'ai négligé, non, c'est que, enfin oui, si j'ai négligé, mais c'est pas parce que je voulais négliger, c'est que j'avais un boulot à plein temps, plus des enfants. Et en fait, dès que j'avais du temps libre, je préférais le passer à peaufiner mes blagues et en écrire de nouvelles que faire du marketing.
Ouais, parce que c'est ça aussi de nos gens, je trouve. Donc, moi, je suis plus dans le milieu yoga, tout coach, tous ces
Ouais.
trucs-là. Et souvent, en fait, je vois que. Alors, les humoristes, c'est peut-être complètement différent. Mais dans ce monde-là, souvent, ce qu'on te vend, le marketing est beaucoup mieux que que le produit ou le service, je trouve, souvent.
Ouais.
Et bon, les
Il y a beaucoup
humoristes.
de, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils découvrent des humoristes sur Instagram et quand ils vont les voir, ils sont déçus.
Moi, je dis ça, non? J'ai pas dit
Mais t'es
ça, il
pas
y a
la
deux
seule en fait. Je pense...
semaines.
Non mais oui, effectivement, je pense que tu me l'as dit, mais je pense que tu dois
Ouais.
être la troisième ou quatrième
Ah
personne qui me le dit en un mois.
ouais. Ouais. Parce que marketing, c'est un job en soi. C'est
Ouais.
pas.
Donc pour moi, c'était essentiel d'avoir un show, d'avoir des blagues qui sont genre qui tuent quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que je paye un peu aussi de ne pas m'être concentré sur marketing puisque. Enfin, c'est pas comme si il se passait rien, hein, mais si je compare, et on dit qu'il faut pas se
Ouais.
comparer, mais t'es toujours obligé de te comparer, surtout. Et là, pour le coup, je me compare pas, tu vois, à des gens abstraits, tu vois, des humoristes très connus, etc. Je me compare à des gens avec qui j'ai commencé
Ouais. Ah.
et qui gagnent bien leur vie aujourd'hui parce que ils ont été plus malins que moi sur le marketing.
Et tu leur parles des fois à ces gens-là de ce qu'ils ont fait, de ce qui a marché, vous échangez des fois?
Oui, mais ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont posté des vidéos de manière très régulière et non, mais c'est ça, hein. Et qui donc ils vont pas m'en apprendre beaucoup plus que ce que je sais déjà, quoi. Mais quand je leur ai parlé, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit aussi. Donc,
Mais tu le
mais
fais
faire des
aussi.
choix, après, c'est je pense aussi faire des choix assez intelligents sur quel type de vidéo tu fais. Parce que déjà, en fait, même, tu dois réfléchir à quel concept de vidéo je peux faire que ce soit pas tous les jours une énorme production, tu vois, que ce soit possible de tenir le rythme.
Ouais.
Donc ça doit être simple, et en même temps, ça doit être accrocheur avec ton public. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé la formule. Je suis allé à tâtons depuis décembre dernier, là. Et j'essaye plein de trucs, jusqu'à ce que... Je trouve.
Netflix appelle.
Mais tu sais, aujourd'hui, tu vois, enfin, je pense à deux personnes en particulier qui gagnent bien leur vie avec ça. Ils n'ont pas besoin de Netflix. Après, peut-être un jour, ils seront sur Netflix et tant mieux pour eux. Mais pour l'instant, voilà, c'est des gens qui, indépendamment, ils sont pas à la télé suisse, ils sont pas dans les médias traditionnels. Et pourtant, ils remplissent les salles. Donc c'est possible, quoi. Mais après, la question, c'est est-ce que ça arrive à tout le monde aussi? C'est assez intéressant, quoi. Je ne sais pas.
Ça aussi, je me
On joue
demande
tous un peu
souvent.
une loterie, quoi.
Ouais. Et tu peux. Alors, je suis vachement dans pensée limitante. Je sais que toi aussi, pensée limitante. Tu t'essayes.
Alors moi, j'ai un pied dedans.
Voilà, un petit orteil.
Non, un pied, un
Un
pied. Mais pas
pied,
les deux.
ok. Mais bon, voilà, est-ce que. Et d'ailleurs, quand tu as dit avant. Ils font aussi un gros travail de marketing. J'ai cru que tu allais dire un gros travail sur eux. Et je me dis, est-ce que. Je sais, je connais pas la réponse,
Non, mais
hein.
alors si je peux te dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire un travail sur eux, puisqu'ils ne se posent pas les mêmes limites psychologiques que je me pose. Et ce sont des gens qui ont très forte confiance en eux, que clairement je n'ai pas.
Ça c'est hyper intéressant.
Et je ne sais pas comment résoudre ça. Mais oui, c'est clair que...
Donc il y a des gens à la base, ils ont déjà tellement confiance
Oui,
ou.
voilà, mais après, je vois aussi dans notre cercle d'humoristes zurichois qu'il y en a aussi qui ont très forte confiance en eux, mais ça suffit pas. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'il y a, il y a le travail, il y a une histoire de confiance, ouais, je sais pas quel... Je...
Il y a le travail donc sur les blagues, l'histoire de confiance, le marketing.
Ouais.
Ouais.
Mais tu vois, par exemple, on parlait avant de commencer l'enregistrement, et je pense que ça va être probablement un podcast sur la confiance en soi. Tu me disais, ouais, alors qu'est-ce que ça te fait? Enfin, tu vois, donc j'ai ce spectacle qui commence en juin. J'ai vraiment énormément de mal à me dire que je suis prêt. Parce que, en fait, si tu veux, non, je sais que je suis pas prêt. Mais j'ai énormément de mal à me dire je serai prêt en juin, je peux commencer à en parler, je peux pousser, Je peux commencer à faire du bruit et ça me bloque. Déjà, en fait, c'est mon deuxième spectacle. Le premier spectacle, j'ai mis 7 ans à l'écrire. En fait, au début, je faisais juste des blagues sur des sujets différents et puis j'avais pas pensé à les mettre ensemble. Et j'ai mis 7 ans à trouver l'histoire qui ferait que tout allait s'imbriquer. Et là, ce deuxième spectacle, je l'ai écrit l'année dernière. Alors, beaucoup à Bâle, en fait, parce que le dimanche soir, il y a un open mic où on peut faire des passages de 15-20 minutes. Donc, je suis venu plein de dimanches faire des longs bouts de 15-20 minutes. Alors, c'était horrible parce que quand tu testes pendant 15-20 minutes, c'est vraiment... psychologiquement, c'est vraiment ouais. dur. Parce que le test, c'est une fois sur deux, ça marche. Ouais. Et encore, ou même plutôt une fois sur trois, quoi. Ça m'a permis d'écrire... là, j'ai 70 minutes de spectacle... Je pense que ça fera au final 80, peut-être 90, mais allez, disons 80. Cette fois-ci, j'avais choisi le thème avant d'écrire. Mais maintenant, je sais que la prochaine fois, je choisirai une histoire. Parce que je veux vraiment, en fait, moi, le stand-up qui passe de sujet en sujet sans cohésion, ça m'intéresse pas. Mais après, je me suis aussi aperçu que juste faire un sujet pendant 1h20, le risque, c'est de faire un TED Talk pendant... toi, tu l'as vu le spectacle, j'ai pas l'impression que ça fait TED Talk. Enfin, il y a quand même... c'est quand même axé sur quand même rendre le sujet drôle. Mais bon, voilà, c'est l'apprentissage. Tu vois, le premier solo, j'ai appris que ça sert à rien de faire des blagues tous azimuts en espérant qu'on va trouver une trame... parce que non, c'est justement tu fais des blagues de 5, 10, 15 minutes sur un sujet, c'est pas du tout fait pour s'imbriquer dans un truc plus gros. Si t'as pas de. Si tu penses pas à designer le truc comme ça. Et là, ce que j'ai appris avec ce deuxième solo, c'est. J'avais choisi un thème, mais en fait, la prochaine fois, je choisirai une histoire, tu vois, un truc dramatique qui tient le public en haleine, j'espère, pendant tout ce temps-là.
Tu sais déjà le thème ?
Non, je sais pas. Non, je suis encore en train d'essayer de... Je suis encore sur ce solo-là.
En juin, donc.
En juin.
Que moi, j'ai déjà vu.
Que toi, t'as déjà vu,
ouais. Qui m'a fait pleurer de rire.
C'est sympa.
Je tiens à le préciser.
Merci.
Encore une fois.
Mais tu vois, par exemple... Par exemple, grosse crise de confiance, là, j'ai un passage justement où je parle des réseaux sociaux dans le passé, etc. En général, les gens me disent, c'est le passage qu'ils ont préféré. Et je me suis tapé un gros bide. Déjà, je me suis tapé un bide quand je l'ai fait en français. Et je me suis retapé un bide quand je l'ai fait en allemand, là, dans une scène ouverte, alors qu'en anglais, ça avait super bien marché. Ouais. Mais même, enfin, j'avais fait en français autre part, ça avait super bien marché aussi, donc je... C'est assez compliqué.
Ça dépend vraiment de l'audience, quoi. Tu sais jamais, en fait.
Oui. Mais
parce que là, ça marche. Le lendemain, pas trop. Mais parce que c'est une autre nationalité, une autre culture, une autre...
Ouais, je sais pas exactement. J'ai pas trouvé les raisons. Mais il faut que ça marche, parce que
c'est écrit dans le spectacle.
C'est écrit dans le spectacle. Et puis, moi, je pense que t'as quand même dans l'humour, tu dois être efficace, quoi.
Mais donc, j'avais plein de questions.
Vas-y.
Sur ce processus, tu vois, d'abord, t'as trouvé le thème pour celui-là.
C'était un thème qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Donc, en fait, je parle des débuts d'Internet. Et il y a un moment, je fais un jump parce que c'est aujourd'hui, en fait. Je fais pas tout ce qui s'est passé entre. Je fais pas l'histoire d'Internet. Je fais vraiment les débuts. Et... paf, ce qui est devenu Internet dans nos vies. Parce que dès le début, en fait, moi, ça m'a fasciné Internet. Il y avait une espèce d'ouverture sur le monde, tout à coup, qui est incroyable. Tu pouvais parler avec des gens aux quatre coins du monde. Moi, je trouvais ça génial. Des gens qui m'ont confronté aussi avec ce que moi, je pensais normal en France et qui m'ont dit... tu vois... Notamment, par exemple, quand tu grandis en France, on te dit que la Révolution française, c'est le meilleur truc qui s'est passé dans le monde et que ça a été un grand moment de lumière pour le monde entier, machin. Donc déjà, on te dit... souvent, t'entends même des politiciens qui disent « Oui, la France, le berceau de la démocratie, etc. » sans te dire que déjà, il y a eu la démocratie américaine avant la nôtre. Et il y a eu aussi la démocratie athénienne, future, tu vois, même bien avant la nôtre, mais bon, bref. Et que la Révolution française, ça a été aussi un événement traumatique pour beaucoup de gens en France. Mais moi, je pense toujours que la Révolution française, c'était un truc bien, mais comme, si tu veux, dans le système éducatif, on t'apprend à célébrer ça, et là, tout d'un coup, je me retrouve face à des gens assez cultivés quand même, parce que des Anglais, des Américains, qui sont quand même assez renseignés sur le truc, enfin, même s'ils avaient des idées voilà, auxquelles j'adhérais pas forcément, mais bon... moi je n'en savais pas autant sur leur histoire, tu vois. Et voilà, qui t'explique que ça a été horrible la façon dont les révolutionnaires se sont comportés, etc. Et je te dis, mais comment oses-tu toucher à ça, tu vois. Et après aussi sur l'attitude de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, où effectivement on passe pas sous silence le fait que Pétain a serré la main à Hitler et qu'il y a eu de la collaboration, etc. Mais tu vis quand même dans une société où on te dit que finalement oui, mais bon, tout le monde a été résistant, tu vois. Alors toi t'as grandi en Alsace, donc peut-être que t'as eu je pense que c'est encore plus compliqué pour vous, cette histoire-là, mais en tout cas, tu vois, enfin, les films que tu regardes, c'est Papy fait de la résistance, c'est des trucs, tu vois, les héros, machin, alors que la plupart des Français n'ont pas été héroïques, voire même l'inverse, tu vois. Et ils commencent à m'attaquer là-dessus, mais moi j'étais jeune, tu vois, j'avais 14 ans, 15 ans... Mais je me souviens que je m'étais couché en me disant « Waouh, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vois. » Même si j'avais pas vraiment le cerveau pour réfléchir sur ce qui s'était passé dans cette chatroom à ce moment-là. Mais ça m'avait quand même marqué. Et en même temps, je me disais « Bon, bah ouais, ça va être intéressant parce que au final, bah, va y avoir plein de confrontations d'idées et que... Et je m'étais
c'est
fait,
ce qui se passe.
Je m'étais fait la réflexion que la vérité allait sortir d'Internet, alors que je trouve que c'est vraiment l'inverse, quoi.
Ouais.
Même s'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de challenges, la vérité, comment dire, politique, tu vois, d'un pays, etc. Mais c'est aussi, enfin, il y a aussi quand même beaucoup de conneries qui se disent, quoi.
Donc, bah ouais, tu sais, au point où on sait pas.
Non, et en fait, voilà, aujourd'hui, donc c'est l'âge de l'information, on ne sait plus ce qu'il faut croire, quoi. Ce qui est vrai, ce qui est pas vrai.
Limite, tu vois un truc et tu te dis, bon.
Ouais.
On sait pas, en fait.
Ouais, en fait, on sait pas.
Donc, moi, je regarde pas.
Ouais. Donc, c'est un peu mon propos, en fait. Mais voilà, donc c'était un truc qui m'avait vraiment intéressé. Ouais.
Qui tient à cœur.
Qui me tenait à cœur, mais après, je pense qu'on a été aussi la première. Ma génération, c'est un peu la génération de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on a grandi tout à coup avec des dessins animés japonais, et ça, c'est la mondialisation. C'est, enfin, tu vois, avant les enfants français, ils grandissaient avec avec des bandes dessinées ou des artistes, tu vois, français, quoi. Et là, tout à coup,
c'est l'hormone.
Voilà, c'est leur monde, etc. Mais nos parents aussi avaient grandi avec le rock, enfin le rock même, Grof, c'est plutôt les grands-parents, mais mes parents avec la musique américaine des années 70, enfin tu vois, et anglaise. Donc, on n'était pas non plus la première à avoir des cultures, mais il y avait quand même une proximité, disons que ça restait un peu l'Occident, si tu veux. La musique américaine, anglaise, etc. Là, tu te retrouves avec des dessins animés japonais. Tu vois, tu pars vraiment sur quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, leur passion, c'est les Coréens.
Ouais, c'est vrai.
Mais,
la musique coréenne et tout.
Donc voilà. Donc il y avait eu quand même un peu par la télé, il y avait eu un peu une ouverture à d'autres cultures, mais t'es vachement en mode, t'es en mode réception, alors qu'Internet, tu vois, t'étais en train de parler à des gens, quoi.
Ouais.
Et donc c'était génial, enfin c'était incroyable que tu pouvais passer des heures à lire des trucs sur des choses qui t'intéressaient, alors qu'avant c'était pas possible. Tu vois, tu devais acheter un magazine ou un livre, alors que vraiment avec Internet, tu pouvais aller au gré de ta curiosité, et puis tu cliques d'une page à l'autre et tu...
Mais je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est pas...
Ouais, parce que toi,
il
n'y
a pas un moment clé où je me suis dit « Waouh !» Je trouvais ça... Non, je n'ai pas vraiment... Ouais.
Après, c'est pour ça que moi, j'en ai fait un spectacle, ouais, parce que ça m'avait vraiment fasciné dès le début. Tu vois, à 15 ans, j'avais déjà conscience de la révolution que c'était, ce truc, en fait.
Bon, pas du tout.
Mais je suis passé à côté de plein de trucs aussi, tu vois. Quand je vois... j'étais un des premiers à faire des sites web auprès de mes amis, etc.
Ah ouais.
Et j'ai eu plein d'idées... que je n'ai jamais, parce que je n'avais pas la fibre entrepreneuriale, etc., tu vois, mais faire un site où les gens pouvaient mettre les photos de la classe, tu vois, pouvaient se retrouver avec ses anciens amis, etc., enfin, je n'étais pas le seul à avoir fait, il y en avait plein. C'est d'ailleurs pour ça que même Facebook, tu vois, il n'a pas eu l'idée, il a vu que plein de gens faisaient ça, donc il a dû se dire, ouais, il y a un besoin... Donc, créons une espèce de, tu vois, d'annuaire. Enfin, pas un annuaire, mais tu vois, un truc où tu peux te retrouver avec les gens de ta classe, quoi.
T'as fait du code ?
Un petit peu. J'étais pas... Enfin, j'étais assez bon en programmation, mais très vite, en fait, il y avait déjà des softwares qui te permettaient de faire des pages web sans code, en fait.
Okay.
Et ça, c'est arrivé très vite. Okay. Je pense que... Pour être obligé de faire une page web en HTML, tu devais même avoir 10 ans de plus que moi déjà.
Tu vois, ça c'est des trucs que je suis pas, je connais pas. C'est pas du tout dans ma réalité. Ouais. Je fais des pages internet maintenant, parce que tout le monde le fait aussi.
Ouais.
Mais...
Non, non, à l'époque, il y avait... il y avait un truc qui s'appelait migal.org, qui était, je crois, le premier truc français qui a vraiment essayé de démocratiser Internet pour que tout le monde fasse des sites, exprime-toi, etc. Donc, moi, j'avais fait ce site, justement, sur les gens de ma classe, sur migal.org, et qui est devenu, après, Migal est devenu Multimania, a été racheté par Multimania, qui, après, a été racheté par Lycos. Je sais tout ça parce qu'en fait, l'URL de mon site a changé de nom 4 fois, suite au rachat, diverses acquisitions d'Internet.
Et tu l'as encore?
Non, il n'existe plus. Toutes ces pages-là ont été effacées. Ces services n'existent plus, et heureusement d'ailleurs.
Ouais. Et qu'est-ce que... Je peux te demander ce que tu penses de ChatGPT et de... Maintenant, il y a aussi le... AI, intelligence. Il y a dans le WhatsApp et Instagram. Tu sais, il y a cette roue-là.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Que toutes les informations sont directement, aident directement toutes ces...
C'était un peu... c'est un moment inévitable. Et c'est inévitable depuis le début, en fait. On allait un peu converger vers ça. Moi, je l'ai pas forcément... J'ai eu le nez de trucs qui allaient se passer. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais dit à ma sœur en 2000... je savais que tout le monde allait avoir Internet sur son téléphone et que ça allait très vite et que t'allais pouvoir voir des vidéos, machin. Est-ce que j'en ai fait quelque chose? Non, tu vois, j'aurais pu investir dans les technologies mobiles, mais comme je suis un idiot... Ça, j'avais eu le nez de ça. Ah, mais je dois dire que l'IA, j'avais pas eu le nez. Je savais, ou alors, je savais que ça allait arriver un jour parce que au travers de mon boulot, j'avais déjà mis en place aussi des systèmes où on allait collecter de l'information pour pouvoir à un moment en faire quelque chose une fois que l'ordinateur en serait capable. Mais pour moi, c'était vraiment tellement lointain que, tu vois, quand ChatGPT est arrivé, ça a été un peu, pour tout le monde, ça a été un peu la surprise de « waouh ». Tu vois, enfin, et même aujourd'hui, quand je vois les progrès que ChatGPT a fait par rapport à il y a 2 ans, déjà, il y a 2 ans, en fait, tout le monde a dit waouh, parce qu'avant, quand tu parlais à un ordinateur, tu voyais que vraiment, il n'était pas capable de suivre la conversation, quoi. Mm-hmm. Là, maintenant.
Mm-hmm. Il te sort des trucs.
Ouais, tu vois, il y a deux ans, à un moment, tu te dis ah ouais, d'accord, ok. Là, on commence à vraiment avoir une conversation avec. Mais surtout, maintenant, je vois. Parce que une de mes autres facettes que tu ne connais pas, Ophélie, c'est que j'ai aussi une passion pour la technologie. Ah ben, enfin, si, en fait, ça rejoint un peu tout ça. J'adore la technologie. Et en 2020, donc quand on a fait le premier podcast, toi et moi, enfin, toi, tu m'as eu pour la première fois en invité, j'ai commencé un bachelor en ingénierie électronique.
Ouais, non, je savais pas. Non.
Que là, que je vais finir 5 ans après, bientôt, là, dans quelques mois. Et il y a 2 ans, et en fait, il y a 2 ans, je voulais voir est-ce que je peux checker mes réponses, tu vois, des devoirs, etc. Et en fait, il y a 2 ans, ChatGPT était incapable de résoudre un problème mathématique un peu plus compliqué qu'une addition, etc. Mais maintenant, enfin, il peut tout faire, quoi. Mm. Et c'est très rare qu'il se trompe. Donc, c'est qu'est-ce que j'en pense j'en sais. je pense que c'est inévitable, quoi. Après, ça pose plein de... Enfin, ça pose plein de questions
qui sont dans les films.
Qui vont être difficiles parce que c'est genre... Déjà, il y a beaucoup de gens... Tu vois, si t'as un boulot qui est basé sur produire des raisonnements simples ou des trucs simples, ce sera plus suffisant, tu vois, parce que la machine peut faire le truc assez simple. Beaucoup de trucs sur la propriété intellectuelle, sur... c'est compliqué, quoi.
Sur l'art, sur...
Ouais.
Sur aussi tes enfants, par exemple, je suis sûre qu'ils doivent l'utiliser pour l'école.
Alors, pas encore, mais justement, qu'est-ce que... Enfin, même, tu vois, par exemple, l'établissement universitaire auprès duquel je fais ce bachelor, qui est un truc à distance, donc c'est souvent des examens à distance, etc. Enfin, eux, ils doivent se poser la question de... Voilà, maintenant, l'IA peut résoudre les problèmes que l'IA n'était pas capable de résoudre il y a 2 ans. Mm. Donc, comment est-ce qu'ils vont adapter leur méthode pédagogique pour prendre ça en compte? Parce que ça, c'est... c'est une transformation énorme, quoi.
Mais est-ce que ça va... Moi, je me dis, est-ce que ça va nous rendre fainéants, tu vois? Parce que là, déjà...
Et on est déjà fainéants. Ouais, on est tous fainéants.
Oui.
Ça fait...
Mais encore plus. Parce que, bon, moi, je fais pas grand-chose. Je suis un peu... dans la conspiration, comme je dit.
Ah, ça y est, elle a fait son coming out.
Ça y est. Je vais juste dire ça.
Elle a fait son coming out. Ophélie est la fille la plus conspirationniste que je connaisse.
Est-ce que t'en connais d'autres?
Écoute, mes grands-parents étaient les premiers conspirationnistes que j'ai connus. Et c'est assez fort parce que ils étaient conspirationnistes bien avant Internet.
Ah ouais, donc depuis
que... Mais je pense qu'on en avait... Je pense qu'on avait parlé la première fois que j'étais sur ton podcast.
De tes grands-parents.
Ouais. Parce qu'ils remettaient en cause plein de trucs, toujours, qu'on voyait dans les news et tout ça. C'est quand même fort, avant Internet, d'être conspirationniste. Fallait vraiment le vouloir.
Ouais. C'est vrai.
Ouais. Mais non, je ne connais pas beaucoup, non.
Ok. Mm. Mais les grands-parents.
Moi, je suis assez mainstream. Mm.
Moi aussi, comparé à d'autres gens que je fréquente. Mais donc.
Alors, il y a des clubs, il y a des. Non, mais moi, j'ai vraiment envie de savoir.
De quoi? Des conspirationnistes. Ouais. Non, il y a mes potes. Ok. C'est tout. Ouais.
Okay.
Qui font eux aussi des podcasts.
D'accord.
Que je peux conseiller, mais c'est en Schwitzerdeutsch, donc peut-être pas.
Il y a des podcasts conspirationnistes Schwitzerdeutsch.
Mais ils parlent juste, ils se posent des questions, voilà, ils se posent des questions philosophiques qui durent 3 heures.
Tu comprends le Schwitzerdeutsch?
Ouais, voilà. Tu comprends, mais toi aussi.
Bah non, j'ai du mal, moi.
Ouais.
Je comprends de mieux en mieux, parce que je suis souvent dans des shows avec des humoristes suisses allemands, ouais. Donc je suis obligé de... Enfin, je sais pas que je suis obligé, mais il y a un moment où je commence à comprendre.
Ouais. Mais ça, c'est dur par contre. Hein,
c'est un long apprentissage.
L'humour en allemand et en Schweizerdeutsch, par contre, je comprends pas.
Ok.
L'humour, ouais, c'est... ça passe pas. Ah, tu fais une blague, ok, non, désolé. Non, mais... ChatGPT.
Ouais.
Je lui demande que de faire mes lettres de motivation en allemand. Et il a écrit aussi, c'est il, et il a écrit mon site aussi, la page.
Ouais, mais par exemple, moi effectivement, quand j'ai des communications en allemand à faire, business, ouais. Je le fais par ChatGPT. Mm. Parce que il parle beaucoup mieux allemand que ce que je serais capable de faire.
Mais je me dis, si je commence à... Il y a des gens qui posent... Hier, mon collègue m'a dit, oui, ma mère, je lui ai montré ChatGPT. Maintenant, elle a des conversations avec ChatGPT. Et elle lui dit qu'elle ne se sent pas bien mentalement. Et alors, ChatGPT lui dit ce qu'elle devrait faire. Et il y a énormément de gens qui font ça.
Ouais.
Et ça, je trouve très dangereux. Pour nous, en fait.
Je sais pas trop quoi en penser parce que quelqu'un d'autre m'a dit ça. Donc j'ai voulu tester.
Okay.
Et c'est quand même pas mal ce qu'il raconte.
Mais j'en suis sûre. Mmh. C'est pour ça que c'est encore plus flippant en fait. Non?
Bah, je sais pas.
Si tu vas commencer à aller vers ChatGPT plutôt que tes amis ou un vrai professionnel de santé. Qui reste un être humain, ok, mais donc il va peut-être faire des.
Ouais, mais déjà tes amis, si les gens ils vont voir des professionnels de santé, c'est qu'avec les amis ça marche pas, tu vois. Enfin, ça marche pas pour qu'ils se sentent mieux. Ça peut aider, mais en général.
Ouais, enfin.
Mais après, la thérapie ça coûte cher, surtout en Suisse.
C'est vrai. Ouais.
Donc. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus parce que les gens qui m'ont parlé de ça me disent oui, ça a été prouvé que c'est mieux que X% de psy, tout ça, j'en sais rien. Je ne sais pas qui a fait cette étude.
Mais moi, je trouve juste que c'est le côté humain en fait qui manquera, tu vois, si on se met tous à faire ça.
Non, mais après, je pense, enfin, le côté humain il manque déjà, c'est un peu ce que j'ai essayé de t'expliquer après qu'on est. Après le show, tu vois, c'est que justement à la fin du show, je retrouve un peu le côté humain dans ma famille avec mes enfants, etc., qui était qui m'avait, enfin, tu vois, alors que moi je fuyais ce côté humain dans ma propre famille dans laquelle je suis né. Donc, je pense qu'on n'a pas attendu ChatGPT pour se déconnecter des gens qui sont autour de nous, tu vois. Déjà, c'était même possible avant Internet, mais...
On a cette tendance, tu veux dire, de toute façon.
Non, pas tout le monde, mais moi, j'avais déjà cette tendance. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait dit à l'école, Benjamin, j'admire ta capacité à te déconnecter complètement du monde qui t'entoure. Parce que c'est vrai que de temps en temps, genre en classe, tu vois, il essayait de me parler et moi j'étais.
À quel âge?
J'étais dans un.
À bah,
tôt, à 12 ans, je pense. 11 ans, 12 ans. Mais bref, et donc, déjà, moi, le fait de pouvoir accéder à des informations sur des trucs qui me passionnent, etc., moi j'ai foncé tête baissée là-dedans en fait. Donc j'ai pas eu besoin de ChatGPT. Et si tu veux, ChatGPT, c'est encore. Un truc en plus, mais je pense pas que je pense pas qu'on ait eu besoin de ça pour fuir de se confronter à la réalité en fait. Et ce qui est un peu ce que j'essaie en fait, c'est pour ça que pour l'instant mon spectacle est encore en mode try-out parce que c'est vraiment le message que j'essaie de tu vois de faire passer de manière un peu plus obvious que ce que j'ai fait quand tu l'as vu. Mais après, tout le monde a un peu des terreaux. Par exemple, moi, ça m'inquiète. Par exemple, les téléphones mobiles m'inquiètent plus que ChatGPT, en fait. Après, oui, sur le mobile, ils ont ChatGPT. Mmh. Mais déjà, le mobile a opéré une déconnexion énorme des adolescents par rapport à leur environnement qui n'existait pas avant. Ça, ça a été un vrai truc. Et tu vois, et moi, je suis un peu un père, j'ai un peu l'impression, tu vois, moi, j'attendais autour de moi, quand je grandissais, des enfants qui me disaient, ouais, mes parents ont interdit la télé, machin. Moi, j'avais la télé, mais j'ai l'impression que j'ai envie d'être un père hyper tradi en disant pas de téléphone, parce que ça me fait peur, en fait.
Ouais, c'est normal.
Et il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que ça affecte les adolescents de manière très négative. Ouais. Moi, je trouve ça hallucinant quand on va à des... J'étais à un anniversaire, là, il n'y a pas longtemps. Il y avait d'autres, couples, etc., avec des enfants. Et il y a des parents, quand l'enfant dit « Allez, je peux avoir ton téléphone », qui cèdent tout de suite, tu vois.
Alors que... Dans la paix.
Oui, mais quand même, on est venu... Là, le concept, c'est on est tous... tu vois, on se voit un dimanche, plusieurs familles, etc. Les enfants jouent ensemble et ils n'arrivent même pas à résister à leurs enfants... Pour leur dire non mais tu te démerdes, voilà, tu te fais chier parce que en fait il faut apprendre à se faire chier parce qu'il y a un moment où justement tu trouves à te sortir de là
et à être avec les autres enfants
avec les autres enfants etc. Et moi ça, et du coup en fait ça m'énerve parce que du coup mes gosses voient ça, allez mais pourquoi lui il a le droit d'être sur le téléphone, et donc tu passes pour un salaud parce que tu dis bah je m'en fiche. Toi, tu seras pas dessus. Alors, heureusement, il y avait d'autres parents qui étaient comme moi. Donc, en fait, il restait des enfants sans téléphone. Mais c'est hyper chiant.
Tu dois faire des anniversaires digital detox.
Ah non, mais les anniversaires, il n'y a même pas moyen qu'il y ait des téléphones. Ça, c'est pas possible.
Non, mais c'est bien. Non, je trouve ça bien.
Ça, c'est pas possible. Mais même, tu enfin... Mon gamin, le plus petit qui va avoir 10 ans bientôt, là, il y a quelques enfants dans sa classe, pas beaucoup, mais qui ont un téléphone depuis 8 ans.
Mais moi, j'ai entendu qu'ils ont déjà des montres connectées à l'école maternelle ou primaire.
Oui, mais ça, voilà, parce que c'est les parents qui ont...
Qui
sont, voilà, qui veulent traquer au GPS où sont leurs enfants.
Moi, je trouve que je ne mettrai jamais cette montre. Tu vois, déjà, après, t'as un truc sur tout. Bon, voilà, c'est mon petit côté conspirationniste, tu vois.
Mais moi, j'ai la puce, tu sais, qu'ils ont mis dans le vaccin, Covid. Avec laquelle ils me manipulent. Je mange des fraises.
Ouais. J'ai fait des
Maman, je ne mange pas du chocolat.
Ma mère va écouter. 100% chocolat, donc il n'y a pas de sucre dedans.
Parfait.
Tu peux y aller. Ta mère va écouter ?
Je ne sais pas.
Tu sais ce que tu pourrais faire, c'est mettre le podcast en lien quand tu vends un ticket, comme ça les gens savent exactement, ils entendent tout le background.
Alors, j'espère que j'arriverai à être assez clair dans le spectacle pour qu'on n'ait pas besoin d'expliquer derrière pendant une heure. Comme j'ai pu le faire avec toi, quel était le vrai propos du spectacle ?
Donc la révolution, Amy. Ok, non, il y a une question qui m'est venue quand t'as dit « je me sens pas prêt pour juin ». Est-ce que ton ancien spectacle, tu te sentais prêt ? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti prêt ou tu l'as juste...
Alors, il y a eu quand même... Alors non, je me suis pas senti prêt pendant des années, mais il y a eu quand même un moment où j'ai ressenti que voilà, l'histoire était là. Après, il y a encore, même quand je l'ai fait plus ou moins pour la dernière fois en novembre, après, en fait, je l'ai encore fait après, mais bon. Je trouvais qu'il y avait des passages où c'était pas encore assez travaillé comme je voulais, etc. Mais c'est pas grave.
Mais
quand même, je me disais, voilà, j'ai le spectacle.
Ouais.
Là, pour l'instant, je l'ai pas encore.
Ah. Ok.
Mais tu vois, par exemple, les autres humoristes suisses allemands me disent. Mais Ben, on s'en fout, tu boucles la première, tu fais un tintamarre de fou, et puis de toute façon, ta première, tu sais bien que le spectacle il sera pas prêt, et que. Et t'es là, mais t'es un malade. À la première, t'invites tout le monde, t'invites tout le gratin du showbiz, suisse allemand. Et moi, j'ai invité, tu vois, par exemple, j'ai invité personne encore. Et c'est dans un mois et demi. Donc, si jamais je me bouge pas le cul, personne va venir.
En fait, c'est un truc qui se fait, ça. C'est d'inviter tout le monde à la première.
Ouais.
Tu peux pas les inviter à la dernière.
Bah, c'est ce qu'il faudrait faire, en fait.
Au milieu.
Ouais. Bah, tiens, je vais révolutionner le.
Mais oui.
Non, mais c'était par exemple en France, t'avais ce même. J'ai bossé pendant un an dans le milieu du théâtre parisien en tant que commercial de spectacle. Et t'avais la générale. Donc c'était en fait, c'était pas la première. Ils disaient c'est la dernière répétition. Mais en fait, c'était vraiment le premier spectacle en fait, qui jouait devant tout le monde. Et là, c'était devant tout le gratin. T'avais tous les professionnels, etc. Ça s'appelait la générale. Et donc ouais, apparemment, ça se fait d'inviter tous les gens pour venir te juger à la première quand tu n'es pas prêt.
Je trouve c'est... Voilà. Pourquoi cette pression ? Non, mais c'est vrai.
Bah, je sais pas.
Alors que tu peux...
Changeons tout.
Oui.
Nous allons lancer un mouvement, révolutionnaire avec Ophélie.
Ouais.
Anti-pression
du showbiz. De pour toi aussi, quoi. Enfin, je sais pas.
Non, mais effectivement, donc ça me met beaucoup de pression. Et moi, la pression, ça a tendance à me paralyser.
Voilà, besoin. Non,
ça... Voilà, là, je... c'est pour ton côté thérapeute.
Merci.
Ça te fait plaisir. Hein.
Ouais, j'adore. Ok, ben oui, parce que Internet, je. Je sais pas quoi dire. Encore moins, qu'est-ce que t'as étudié ?
Qu'est-ce que j'ai étudié ?
Qu'est-ce que t'es en train d'étudier là ?
Ah, l'électronique. Mais c'est vraiment genre, tu vois, les composants électroniques, comment ça marche, la transmission de messages.
Ouais. T'es en plein dedans, du coup.
Je suis en plein dedans.
Ok, donc.
Le Wi-Fi. les antennes mobiles.
La 5G.
Ma femme me dit. Parce que je suis obsédé par les antennes. Donc, dès que je vois. Ah, regarde, t'as vu, il y a une antenne. Elle me dit, mais on s'en fout.
Elle t'a dit ça?
Non, mais en rigolant. Mais... elle se moque de moi parce que il y a eu l'antenne de Bonstetten. La dernière fois, on rentrait de Zurich en voiture et à un moment, dans la voiture, je tourne la tête comme ça, je dis mais il y a une deuxième antenne! Et là, c'est bien foutu de ma gueule.
J'aimerais trop entendre sa version de la vie, quoi. Un jour, j'ai rencontré.
Non, mais ma femme, quand je lui ai dit, écoute, ça va paraître bizarre, mais je pense commencer un cursus de bachelor en ingénierie. Et elle m'a dit, je ne sais pas quoi te dire.
Tu rigoles dans ces moments-là ou...
Non, mais elle avait... Enfin, elle avait raison. Parce que c'est complètement irrationnel. Qu'est-ce que je vais faire de ce truc ? J'en ai fait un show sur Internet, voilà. Parce que j'ai appris comment l'électricité avait été faite, donc je l'ai mis dans mon spectacle. J'ai appris comment... j'ai appris comment marche un transistor, qui est genre... Enfin, c'est...
Je sais pas que t'avais... Tu devrais le dire sur scène, que tu fais un bachelor de ça.
Bah écoute, j'avais tout un passage sur, justement sur l'université en ligne. Peut-être que je devrais le rajouter. Ouais. Ouais.
Obligé.
Ouais.
Surtout de ce que c'est exactement. Je pense que... Ok, tu disais un truc où je pouvais enfin participer.
J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, la peur de se montrer, je sais pas, t'avais envie de me psychanalyser alors.
Non, j'ai pas envie de te psychanalyser, mais de parler, parce que moi, je te disais que quand là, je fais 10 minutes de storytelling début mai, et ça m'a donné mal au dos au point de plus pouvoir marcher. Donc, j'avais envie d'entendre ton point de vue sur le processus créatif, sur se montrer, sur scène, et si ça faisait des trucs dans ton corps aussi.
Ben, moi déjà, en fait, même, c'est pas du tout naturel chez moi, en fait. J'ai toujours eu l'envie, donc c'est pas comme si c'était tombé comme un cheveu sur la soupe, mais mon corps entre toujours en grande résistance, de m'exposer, etc. Je pense que c'est des problèmes un peu de confiance... et ça me, enfin, je sais pas comment te dire, moi c'est pas mal au dos, mais ça me noue l'estomac, mais pendant des semaines, et ça me paralyse, et enfin, et là par exemple, je suis un peu paralysé, tu vois, je suis
parce que tu te sens pas prêt,
parce que je me sens pas prêt. Mais pareil, tu vois, par exemple, pour les vidéos Instagram, j'avais commencé à mi-décembre, j'étais à fond, j'en faisais une tous les jours, etc. Puis là, je vois...
J'en regarde trop.
Alors juste, Ophélie est allée prendre la boîte de mouchoirs parce qu'elle pense que je vais me mettre à pleurer.
Si j'avais envie, je pourrais te faire pleurer, mais...
Ah, ok.
J'ai pas envie aujourd'hui, c'est bon.
Alors, je te mets au défi de me faire pleurer. Okay. Peut-être pas en enregistrement, mais quand on coupera,
non.
On va voir si tu vas y arriver. Et on pourra en faire un deuxième épisode.
Et si j'y arrive quoi.
Mais donc sur Instagram, tu vois, quand je vois que les vidéos elles prenaient pas comme ce que j'avais espéré, etc. Mais en même temps, qu'est-ce que j'avais espéré vu que j'en avais jamais fait à ce rythme-là pendant.
C'est la pression qu'on se met.
Et là, ça m'a paralysé. Donc là, ça fait quelques semaines que je suis assez inactif parce que je suis complètement tétanisé.
Parlons-en de ça, exactement. Instagram. Déjà, c'est parce que tu te filmes aussi. Donc déjà, tu postes tes passages avec le public des fois.
Parfois.
Et après, tu postes aussi des vidéos.
Ouais.
T'avais fait un peu les infos. J'avais vu des...
Ouais, j'avais essayé. J'ai essayé plein de trucs, tu vois. Ouais.
Et est-ce qu'il y a... avant de poster... dis-moi comment tu te sens avant de poster ça.
Il y a quand même un truc que j'ai appris quand même autour de tous ces trucs créatifs. C'est... Alors, ça va être en complète contradiction avec ce que j'ai dit, que j'étais paralysé. C'est que parfois j'arrive quand même à juste me dire il faut que tu le fasses parce que tu t'es fixé l'objectif et il y a pas de, on ne réfléchit pas à ce que est-ce que ça va être bien ou pas.
Tu le fais et tu laisses même pas la place à la pensée.
Donc par exemple j'ai un quota d'écriture un peu quotidien qui est, tu vois, un certain nombre de mots et maintenant je me pose plus la question de est-ce que ça va être bien ou pas, je le fais, tu vois. Ça me permet au final, tu vois, d'avoir des blagues, tu vois, avec le temps, parce que je jette beaucoup, mais... Et j'étais dans un moment où tu fais juste une vidéo par jour et tu réfléchis pas. Et puis, il y a un moment, je suis arrivé sur un... sur un mur.
T'as réfléchi?
Ouais, parce que la vidéo, c'est quand même... c'est un processus qui est beaucoup plus long, parce que tu dois quand même l'écrire.
Ouais.
Après, tu dois la tourner. Ouais. Après, tu dois la monter. Donc, voilà.
Ça prend énormément de temps.
Ça prend énormément de temps.
Donc
ouais, il y a un moment, j'ai trop réfléchi, ouais. Il faudrait que j'arrive à me remotiver Enfin, c'est pas que j'arrive à me remotiver, c'est... Je sais que je sortirai de ça parce que je suis déjà sorti dans le passé de ça, en fait. Là, ça fait, on va dire 8 ans que je suis beaucoup plus investi dans ce que je fais créativement. Donc, je commence aussi à me connaître créativement. Et de me dire, t'as un peu une paralysie sur ce point-là, mais je sais que ça va passer.
Ouais.
Mais ça, tu peux pas le savoir sans avoir l'expérience créative de quelques années pour t'être observé toi-même.
C'est comme atteindre un plateau. Mais après, faut que t'ailles par-dessus.
Ouais, soit un plateau, soit de temps en temps, tu rencontres une certaine résistance qu'il faut arriver à briser. Je sais pas trop ce que c'est.
J'ai ça quand je poste sur Insta. J'ai commencé à poster des stories un peu débiles ici et là. Mais voilà, mais ça fait un ou deux ans que je pratique me filmer.
Ouais.
Sans jamais rien poster.
Ouais.
Tellement j'arrive pas, tu vois. Tellement c'est, je me dis, non, mais je peux pas poster ça parce que regarde mes cheveux et regarde ci, regarde ça. Et là, j'ai commencé à le faire, mais des fois, ça me met 5 jours avant de la poster. Ou des fois, je me dis, non, mais c'est trop cringe, je peux pas.
Ouais.
Et après, je bloque certaines personnes que je veux pas qu'ils voient. Et maintenant, j'ai débloqué les personnes. Et là, ce soir, je vais en sortir une. Et ça m'aide beaucoup. Moi, c'est beaucoup sur le dating. C'est Bah, c'est hyper personnel, c'est hyper vulnérable.
Ouais.
Et je pense que ouais, c'est une pratique vraiment à avoir. Mais au début, c'est... t'as l'impression que le monde va s'écrouler, alors que pas du tout. Tu vas avoir après des petits feedbacks de tes potes qui sont les seuls à regarder ça. Hein, parce que... Et même eux, quand je mets pas de sous-titres, ils regardent pas, tu vois. Parce qu'ils me disent, ah, je regarde dans le lit, à mon mec à côté, je mets pas le son, tu vois. Donc tout le monde s'en fout, en fait, tu vois.
Non, mais c'est vrai, il y a tellement de trucs qui sont publiés que. Ouais.
Donc.
Ça devient dur de capter l'attention, quoi.
Après, je vais partager un... Non, je te partagerai après.
Vas-y. Ah, ok.
C'est sur dating. Il y a un ex...
Ça sera avant ou après que tu m'aies fait pleurer?
Donc là, on a parlé d'Instagram et comment tu le sens et tout. Et que c'est vraiment une pratique et que... Voilà, ça devient...
Mais alors, tu vois, il y a un truc, c'est que... Même si jamais c'était dur et puis j'étais un peu tétanisé, etc., j'ai quand même aimé le concept de tu te lèves le matin, tu dis mais qu'est-ce que je vais produire aujourd'hui? Parce que c'était un peu comme c'est un peu comme si tu avais ta chaîne télé et puis tu vois tous les jours tu dois montrer un truc, tu vois, tu dois faire ton programme et même si jamais tu vois je me suis pris principalement des bides.
Mais sur les réseaux là.
Ouais. Ça m'a vachement plu. Et je me disais tiens, je me verrais bien avoir cette vie là.
De créateur de contenu.
Ouais. Parce que pour moi c'est, enfin tu vois, créateur de contenu ça fait genre vraiment influenceur et ça machin. Mais pour moi c'est comme je sais pas, quelqu'un qui est à la télé qui doit produire son émission quotidienne, tu vois. Qui doit produire sa chronique, qui doit produire ses 4 minutes de sketch.
Et t'avais toujours des idées? Ou tu faisais du batch
Non, en général... En général, j'arrive... Ouais, les idées viennent, en fait.
Ouais.
Même si... Ouais. Si tu te mets devant ton ordinateur avec assez de minutes par jour, les idées viennent.
C'est une pratique.
C'est une pratique, ouais. Tu sais jamais d'où ça vient. Ni... J'ai pas de recette secrète, hein, à part se planter devant son ordi et... Et puis commencer à écrire, quoi.
Parce que moi, je produis pas comme ça du tout.
Justement, je pense que chacun doit trouver le truc qui marche pour lui.
Ouais. Moi, c'est plus... J'ai un truc qui va m'inspirer pendant la journée. D'ailleurs, le matin, c'est... Il n'y a rien qui se passe dans mon cerveau.
Ouais.
Je me lève, il n'y a rien. La veille, j'aurais fait des trucs le soir... Mais je vais même pas y penser le matin, tu vois. Il va vraiment falloir que j'ouvre mon journal ou mon ordi pour voir. Ah oui, c'est vrai, je travaillais sur ça. Bon, on va continuer, mais un canevas blanc, tu vois.
Ouais.
C'est genre, ah oui. Et c'est vraiment un truc qui va m'inspirer pendant la journée et que je vais me dire, ouais, il faut que j'écrive ça absolument. Mais que je pense que t'as aussi quand il arrive un truc pendant la journée, quoi.
Alors après, non, mais si j'ai un truc qui m'arrive pendant la journée et que je me dis, ah, ça serait bien d'en faire un sketch ou un truc, j'ai un endroit où je le mets, ça. Donc après, tu vois, quand je fais mes séances d'écriture, c'est pas je m'assois et puis j'attends que l'inspiration arrive.
La muse.
Enfin, voilà, parfois c'est ça, mais parfois je regarde un peu où est-ce que j'ai mis mes idées et je commence à écrire là-dessus.
Okay.
Donc c'est pas. Si, voilà, ouais, je pense qu'on. Enfin, j'ai ça aussi.
D'accord.
J'ai ça aussi. J'ai un peu un processus tu vois, j'ai un truc qui m'inspire et puis après, plus tard, j'écris là-dessus. Mais j'étais obligé de m'organiser parce que avec le boulot, les trucs. Et puis après aussi, quand tu fais du stand-up, le soir, t'es obligé d'aller jouer. Donc, et puis, avant d'aller jouer, faut répéter. Donc en fait, moi, j'avais pas vraiment le temps entre le boulot et la scène d'écrire des nouveaux trucs. En fait, donc vraiment pour moi. Mathématiquement, le matin, c'était vraiment le seul moment où je pouvais faire ça. Non, je suis chômeur, donc j'ai plein de temps libre.
Et c'est comment ça, pour ton processus créatif?
Ça ne m'aide pas du tout.
C'est vrai?
Parce que ça devient... Bah, là, voilà, tu dois produire pour en faire un métier, tu dois gagner de l'argent, et alors ma créativité elle fonctionne pas. Ouais. J'aimerais bien que ma créativité soit un petit peu plus pute. qu'elle ait plus la patte du gain, tu vois. Je vais te donner ce que tu veux si tu me donnes de l'argent, tu vois. Mais malheureusement, non.
Ouais, ça marche pas comme ça. Mais c'est incroyable que t'aies... C'est à noter, ça. C'est incroyable que t'aies pu produire tellement... Ouais, écrire tellement de blagues. Alors que t'as un métier à temps plein et que t'as deux enfants. C'est... Pour moi, c'est... Comment il fait ?
Souvent, les parents, ils disent que quand t'as des enfants, tu découvres le temps que t'as.
Voilà.
Ouais, c'est un peu ça. Hein. Moi, c'est un peu aussi ce qui m'a réveillé. Hein.
Ouais, t'as plus le temps. Tu peux plus te permettre de procrastiner, en fait. Faut juste que tu le fasses. Faut que tu utilises toutes les minutes que t'as.
Ouais, après, il y a beaucoup de procrastination dans ma vie aussi, hein, mais c'était plus genre, ouais, je sais pas, le truc que tu pensais impossible avant, tu te rends compte, qu'est-ce que tu racontes là? Si, t'as une heure, et tu vois, tu te rends compte des ressources que t'as, ouais. En fait. Mais ça vient aussi à un moment où t'as peut-être aussi t'as plus d'idées de ce que t'as envie de faire. Moi, là, j'ai commencé à 37 ans, le stand-up, mais c'était pas la première fois que j'essayais dans ma life, tu vois. Et là, quand j'étais un peu plus jeune, mais je sais pas, je m'étais dispersé, ouais, j'avais fait un peu...
Mais t'avais fait un spectacle, non ?
Ouais, j'ai fait un spectacle. Mais j'étais parti un peu à droite, à gauche, alors que là, tu vois, j'avais refait... j'ai fait un open mic à Zurich... avec des gens que j'ai rencontrés sur Internet, justement, sur un forum. Et puis, on a fait ça, c'était génial, et tout ça. Et puis, je me suis dit... Et en fait, je me suis dit, Ben, t'as 37 ans, tu ne seras jamais connu. Tu vois un peu les pensées limitantes. Ouais, mais donc, du coup... zéro pression. Mais ouais. Maintenant, dans ma tête, c'était clair que j'avais envie que ce soit dans ma vie,
ouais.
Le stand-up.
Ouais.
Et donc après... Comme ça, c'était un choix clair et que je savais que j'avais envie de ça, bah, l'heure, tu vois, que j'avais de dispo, ouais. J'avais envie de la consacrer à ça. Parce que j'étais plus, tu vois.
Ouais, ça fait ça.
J'avais, quelques heures de vol.
Non, mais aussi, surtout, tu l'avais fait il y a des années auparavant. Et après, c'est revenu. Donc, je fais vachement confiance à ce genre de truc aussi, tu vois, que ça revienne comme ça dans ta vie.
Mais ça m'avait jamais complètement quitté, parce que parfois, souvent, je regardais un peu cette période de, tu vois, de ces deux ans et demi à Paris, et puis je me suis dit, à quoi ça a servi, en fait. Et quand j'ai fait le discours de témoin de mon pote, là, je me suis dit, ok,
juste après.
Là, t'es à un niveau où, deux années de stand-up, ça t'a quand même mis à un niveau qui est quand même au-dessus des autres, quoi.
Ouais, ouais.
Et pareil, quand j'ai fait mon MBA, là aussi, j'ai remarqué que quand je devais prendre la parole en public, j'avais quand même... Ça n'avait pas servi à rien, quoi. Et ça m'a beaucoup servi dans ma carrière. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à monter là où j'étais. Et c'est aussi, à mon avis, ce qui a contribué à me faire virer, au final. Mais...
Bénéfique au début. Et...
Ouais. Je pense que j'étais monté tellement haut qu'il y a un moment, tu peux pas...
C'est vachement intéressant que tu vois, tu prends confiance dans un domaine et après tu prends confiance dans un autre domaine aussi.
Ouais.
Ouais.
Il est vrai.
Non, mais c'est jamais pour rien qu'on fait les choses. Tu apprends toujours forcément... une skill.
Ouais, alors pas forcément... Enfin, oui. Par exemple, moi, c'est un truc où j'ai toujours... tu vois, apprendre un skill, je pense que pas tout le monde n'a ça.
De quoi ? De vouloir apprendre,
quelque chose. Ouais. Il y a des gens qui aiment bien le statu quo. Moi, par exemple, monter sur une scène devant des gens, parler, etc., c'est un truc où j'ai dû... me foutre des coups de pied au cul parce que j'étais vraiment par rapport aux autres gens j'étais très loin derrière. Tu vois, je voyais dans la classe, etc., moi quand je devais m'exprimer en public, c'était pire que tout le monde, c'était vraiment nul.
Moi, je me devinais tout trop, je transpirais l'air fond.
Ouais.
T'avais ça aussi?
Ou le cœur qui battait, ouais, beaucoup de transpiration, beaucoup. Mais ouais, enfin, j'ai encore ça. Hein. Souvent, j'ai la transpiration sur le front. Mais bon, c'est comme ça, quoi.
T'as quand même l'envie de le faire et plus.
J'ai quand même l'envie,
que
ouais.
Par exemple,
tu vois, quand j'avais essayé de faire du stand-up à Paris, il fallait que j'aie un boulot alimentaire et je voulais pas prendre n'importe quel boulot. Je me suis dit, allez, je vais prendre un truc qui va me prendre un skills. Et je suis parti faire de la vente en sachant que j'étais nul. Et en fait, au final, ça m'a vachement appris et je pense être assez bon commercial aujourd'hui. Mais je pense pas que tout le monde. Parce que quand t'apprends un skills comme ça, tu passes quand même par vachement de moments où tu tapes la honte, t'es nul, tu te fais juger par les autres. Tu vois, oui, il faut s'en foutre de ce que pensent les autres, mais c'est dur quand même parce que quand t'es un loser, c'est un peu chiant, quoi. Et donc tu vois, tu dois passer par vachement de moments de lose pour devenir, tu vois, surtout si t'as envie d'aller dans des choses difficiles. Ça a été un truc. Moi, j'ai toujours bien aimé aller justement dans ces. J'ai cette valeur d'apprendre, de toujours être en apprentissage.
J'avais remarqué, ouais. Bachelor.
Ouais. Non mais, enfin. Et là, c'est le dernier bachelor que je fais là, parce que c'est n'importe quoi. Honnêtement.
En plus des enfants et du stand-up.
Non, mais c'était n'importe quoi. Mais ouais, et d'apprendre, c'est une valeur dans ma vie.
Ouais.
Mais je pense que tout le monde l'a pas forcément.
Ouais.
Parce que c'est tellement inconfortable.
Ouais. C'est ça qui fait que tu restes bien dans ta tête aussi. Si, c'est bien pour le cerveau. Tu vois, les gens, ils. Enfin, je sais pas.
Non, mais je pense qu'effectivement, oui, ça empêche que. Enfin, ça ralentit ma sénilité.
Voilà. Ouais. Et ça te rend plus flexible au quotidien par rapport à des. Tu vois, si les situations changent.
Probablement.
Ben, tu te dis, bon, ben voilà, maintenant, je travaille pas pour le moment. Mais tu vas peut-être mieux l'accepter ou mieux le vivre que quelqu'un. Qui a fait la même chose toute sa vie et qui tout d'un coup ne fait plus rien et
ouais
tu vois
c'est possible
autre chose va venir ça tout change tout le temps voilà tu restes plus flexible moi je change de job tous les ans donc ça aussi
non mais moi je vois enfin mon grand-père maternel il a fait le même métier pendant des années et puis quand il est parti à la retraite c'est vrai que il a décliné hyper vite bon après il a pas eu de chance c'est le Alzheimer. Mais Alzheimer, enfin, on dit aussi que justement, si tu entraînes ton cerveau, ça ralentit vachement la maladie, quoi.
Ouais. Et tu l'entraînes pas en regardant la télé le soir après le travail.
Ouais. Ouais.
On est bien d'accord.
Donc, voilà, moi, j'apprends l'électronique.
Voilà.
C'est comme ça que je fight. C'est comme ça que je fight Alzheimer.
Et j'écris des blagues et.
Ouais, j'aime bien m'occuper.
Ouais. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Je pense que
non, je crois qu'on a tout
combien
dit.
Combien on est?
On doit être à 2 heures au moins, non?
1h11.
En juin.
Non, mais venez voir mon spectacle, même si jamais je suis pas prêt, venez. Non, mais je pense que ça va être chouette parce que enfin, je pense que culturellement, c'est aussi des questions que beaucoup de gens se posent, donc ça tombe aussi au bon moment. Même si jamais c'est un truc que j'avais en moi depuis très longtemps. Je pense qu'il arrive un peu au bon moment et puis c'est pas si sérieux que ça non plus. Enfin, tu l'as vu, c'est quand même.
C'est très drôle. Allez voir son spectacle.
Merci. Bencomedian.com.
Voilà, je mettrai tous les
liens.
Les liens et le premier podcast qu'on a fait.
Et surtout le Instagram, le profil Instagram Bencomedian.
Ouais.
Que vous voyez. En direct, ma paralysie ou pas, ou mon succès.
Voilà, merci Ben.
Et merci Ophélie de l'invitation.
À la prochaine. Merci.
Et en bonus sur Patreon, Ophélie va me faire pleurer maintenant.